Radio Campus Lille, il est 8h.
Centre-ville, je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel.
Bonjour à toutes et à tous et joyeux réveil matin avec Radio Campus, comme tous les lundis, tous les premiers lundis du mois de 8 à 9, et bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du revenu de base présentée par Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Salut Max, ça va, et toi ?
Eh bien oui, ça va bien.
J'adore jouer le rôle du réveil matin du lundi matin.
Ah bah écoute, hein, c'est un rôle parmi tant d'autres.
Mais avec de bonnes nouvelles, figure-toi qu'aujourd'hui on reçoit Pierre-Yves Pira. Qui est de chez nous, de Lille, conseiller, ancien conseiller municipal sortant à Lambersart, et surtout, il est membre du conseil de l'eau à la métropole européenne lilloise, la MEL, pour les intimes, et fondateur du collectif Eau depuis 2011, qui réunit des citoyens, des organisations, etc. Il va nous permettre d'approfondir un des points qu'on a déjà évoqué, mais très, très légèrement dans le projet des décroissants avec Vincent Léger. Je ne sais pas si tu te souviens, qui nous parlait déjà de la gratuité des premiers mètres cubes de l'eau, mais qu'on n'avait pas pu approfondir. Et figure-toi qu'on a trouvé un spécialiste local. Et quand je dis local, c'est autour de Lille, mais évidemment, c'est un local qui peut se transférer à tous les locales de France. Donc, complètement écoutable partout et inspirant. Pierre-Yves, bienvenue. Je vais Merci. Te passer à la moulinette de notre question rituelle. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte. Il n'y a rien à faire. C'est à ton nom. Et c'est jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Ou alors, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi si tu l'avais eu avant ?
Ben, figure-toi que c'est ce qui m'arrive.
Je
suis à la retraite.
Ah.
Je suis un heureux retraité et tous les mois, il y a de l'argent qui tombe. Bon, voilà, je pourrais rester à ne rien faire. C'est vrai, on pourrait ne rien faire du tout. Mais tout compte fait, non. Moi, j'aime bien participer et contribuer à notre vie en société. Et donc, voilà, je continue à être actif par-ci, par-là. Quoi, hein, et donc là, par exemple, ici... de parler de l'eau et de... Je représente le collectif Eau pour une régie publique et les premiers mètres cubes gratuits. Hein, c'est un ensemble de mots. Tout ça, ça va ensemble. Et je pense qu'il y a des idées qui sont à faire évoluer, à faire fructifier dans la société. Et puis, il y a aussi une question de transmission dans toute cette histoire parce qu'on est plusieurs générations et donc... une fois qu'on est retraité, si jamais on reste dans son coin, c'est complètement idiot. Donc on doit continuer à discuter avec les plus jeunes générations et puis transmettre et puis évoluer aussi dans nos positionnements. Et donc voilà quoi. Donc quand on n'a rien à faire, on peut faire plein de choses.
Ouais, bienvenue. Très très bonne idée. Et d'ailleurs, on va, grâce à toi, découvrir qu'est-ce qui est possible, parce qu'on rappelle que toutes les versions qu'on présente sont complètement réalistes et réalisables. Donc, ce n'est pas du rêve que tu vas nous vendre. Concrètement, pourquoi s'intéresser particulièrement à l'eau et pas, aux patates ou aux carottes ?
Oui, bon, les patates et les carottes, c'est utile à la vie aussi, hein, mais... disons que l'eau est indispensable à la vie. Hein. Vivre sans eau, on ne vit pas longtemps, on meurt vite. Quoi. Et sans eau, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'existence possible. Donc, et pourtant, bien que ce soit un besoin essentiel, quoi, c'est trop souvent pensé comme un besoin marchand, nos sociétés actuelles. Et là, c'est une ligne de factures, un coût à optimiser, une ressource à gérer. Ça, c'est des logiques économiques qui, qui sont considérés avant de le considérer comme un droit fondamental. Donc, quand on parle de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, de la qualité de l'eau du robinet, de la régie publique, de l'organisation du service de l'eau, ben, ce n'est pas ouvrir un débat technique qui serait réservé aux spécialistes, c'est poser des questions profondément politiques. C'est que considérons-nous comme essentiel ? Que voulons-nous garantir à toutes et à tous, indépendamment du revenu, du logement et du territoire ? Comment organisons-nous collectivement la préservation d'une ressource vitale dans un contexte de dérèglement climatique ?
Oui, aussi.
Alors bon, donc voilà, nous, on défend une thèse simple mais exigeante. L'eau vitale doit être garantie comme un droit effectif. La ressource doit être protégée durablement. Et les choix structurants doivent relever du débat citoyen et de la décision démocratique. Et donc, voilà, une fois qu'on aura nos revenus et que la centralité des choses ne soit plus le travail, on pourra peut-être se libérer pour participer à des débats citoyens.
Oui, s'impliquer plus.
Et s'impliquer plus.
D'autant que là, on vient juste d'assister au procès Nestlé. Donc, ce grand scandale dont la France peut s'enorgueillir, donc, quand Nestlé exploite l'eau de notre massif central et se permet de le mettre en bouteille alors même qu'elle est polluée, essaie de le cacher pendant des années avec des faux filtres, etc., et de la complicité jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le procès vient de démarrer et en fait, on voit que la plupart des charges ont été abandonnées. Mystérieusement. Donc voilà, comme quand tu dis que non seulement c'est une ressource vitale, mais qu'en plus elle nous échappe par plein de moyens, enfin par plusieurs moyens. D'abord quand elle est privatisée, aussi quand elle est polluée, et encore plus quand démocratiquement on nous spolie du droit même d'avoir, même quand on l'achète, d'avoir un produit bon pour notre santé, quoi, enfin, tout simplement. Là, on est en plein dans le sujet.
Oui, on en reparlera tout à l'heure en ce qui concerne les nappes phréatiques. Mais ici, dans la Maine, hein, il suffit d'aller sur le territoire de Péranchy. Et en 1978, quand la communauté urbaine se crée, il y a une station de pompage municipale qui est là, qui existe et qui pompe l'eau de la nappe phréatique en dessous de la ville de Péranchy, qui est revendue un franc symbolique à un homme qui va le mettre, qui va en faire une usine d'embouteillage d'eau, qui va exporter dans le monde l'eau qui est ici et
incroyable.
Qui va s'enrichir. Maintenant, c'est sous la marque Cristalline. Mais d'accord. Donc, en fait, c'est notre eau, c'est l'eau collective, c'est notre bien commun qui est approprié par un groupe.
C'est choquant.
Voilà. Donc, ça existe. Ce n'est pas aussi scandaleux qu'à Nestlé, parce qu'ils ont dû puiser moins, donc la nappe phréatique, les polluants se sont moins concentrés.
Mais quand même.
Mais quand même, voilà. Donc voilà, moi je pense que on a une eau qui existe et qui a une histoire aussi. Elle dépend des conditions climatiques, géologiques et humaines, on est en train d'en parler. Et c'est une histoire qui est faite de choix économiques, industriels et politiques. Et les effets pèsent encore aujourd'hui sur la qualité, la disponibilité de la ressource. Donc, sur le territoire de la Melle, l'approvisionnement en eau potable repose sur un équilibre fragile entre les champs captants, la nappe, les deux nappes phréatiques, hein, et les eaux de surface, notamment celle de la Lys. Alors, il faut savoir que nous entrons très tôt en situation de stress hydrique. Un stress hydrique, c'est quand on ne produit plus assez d'eau par rapport à la demande, quoi. Et donc, en fait, la surexploitation des nappes phréatiques de par le passé a concentré les polluants. Tandis que l'augmentation des prélèvements des eaux de surface qui viennent de la Lys, on potabilise, viennent permettre de ne pas trop pomper dans les nappes phréatiques. Mais pour ça, il faut aussi avoir une vigilance accrue sur le maintien de l'étiage du fleuve, quoi, hein, quelque part. Quoi. Donc en fait, on est dans un équilibre assez particulier.
Et quand tu parles de polluants, c'est même des pollutions qui datent de la guerre.
Bien sûr. Je vais en parler, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 63 millions de mètres cubes d'eau qui sont mobilisés.
D'accord.
Donc pour une ville, pour la Mélin, avec 120 000 habitants. Hein, 1 million,
oui,
100,
1 million 120 200. 000
habitants. J'avais oublié 1 million d'habitants. Donc, on peut penser que c'est abondant. Hein, on peut penser que...
Qu'il y a assez.
Ben oui.
Ça fait beaucoup.
Mais non. Enfin bon, voilà, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant et que pour un bien, il y en a qui voudraient faire venir de l'eau d'ailleurs. Quoi, hein. Et ça nous questionne aussi parce que ça montre que les territoires ne disposent pas des mêmes ressources et que... ni même de la qualité de la ressource. Hein. Nous, on a ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire qu'on est les héritiers de la révolution industrielle, de la concentration d'industries lourdes et chimiques.
Mais oui.
On a des pollutions diffuses et persistantes. On a aussi des destructions, des contaminations liées à la guerre. Et on a une urbanisation ancienne avec une artificialisation des sols. Hein. Donc, en fait, effectivement, tout cet héritage a dégradé certaines ressources en eau et ont rendu leur potabilisation. Alors, j'utilise ce terme-là, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais l'idée, c'est de la rendre potable, quoi. Ça les a rendues plus complexes, plus coûteuses et parfois plus incertaines. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a le dérèglement climatique qui vient aggraver la situation et aggraver ces inégalités territoriales, historiques, des sécheresses plus fréquentes, des pluies plus intenses, mais moins efficaces pour recharger les nappes, hein, puisque, en fait, il y a plein d'eau qui tombe en même temps, donc ça ne se diffuse pas comme il faut. Une accentuation des pollutions par ruissellement. Alors, l'eau ne disparaît pas, mais elle devient plus vulnérable. Plus coûteuse à capter et plus coûteuse à traiter.
D'accord.
Donc le constat fondamental, c'est que la ressource en eau est profondément inégale selon les territoires. Alors non seulement par nature, mais par histoire. Nous, si on veut boire de l'eau potable ici à Lille, on va devoir la traiter, on va devoir enlever tous ces polluants. Et ça ne serait pas la même chose si on habitait au pied de la montagne, là où coule l'eau de source et où... on aurait une eau pure. Donc, en fait, en fonction de l'endroit du territoire où on est, on va déjà avoir des traitements de l'eau qui vont coûter davantage à un endroit et pas à un autre. Et puis, les conséquences politiques. En fait, on nous demande de gérer l'eau à l'échelon local. Donc, effectivement, bon, il faut la gérer au niveau local, puisque c'est au niveau de la démocratie, au niveau des usagers. Enfin, voilà, il faudrait... Ça a du sens, quoi, hein. Mais la gestion, elle doit peser dans une logique de solidarité entre les territoires, quoi, hein, et que les choix passés ne reposent pas que sur les mêmes personnes. Puis, mettons que j'habite en campagne, j'ai pas la Mel comme entité, comme collectivité. Je suis un simple syndicat intercommunal. J'ai beaucoup moins d'argent pour payer. Le traitement et tout ça. Et donc, de ce fait-là, la facture de l'usager est bien plus importante. Donc, en fait, là derrière, il y a plein de questions, quoi, hein. Donc, on peut aussi parler de la ressource, hein, encore aujourd'hui, hein. Il faudrait que toute l'activité économique qui se déroule au-dessus des champs captants... partout là où l'eau pénètre pour alimenter les nappes phréatiques, il faudrait que cette économie se développe, enfin, toutes les entreprises, tout ce qui se passe à tout niveau, ne vienne pas polluer. Hein, il vaut mieux ne pas polluer que de devoir payer la dépollution après, quoi, hein. Donc voilà, donc, il faudrait encourager les endroits au-dessus des... les champs captants, par exemple. La MEL a initié, enfin initié, c'est nous qui l'avons poussé, nous, le collectif eau, hein, mais faire en sorte que les communes gardiennes de l'eau. Hein. Donc, en fait, ils ont mis en place un endroit où, on va dire, on a sanctuarisé une sorte de développement économique qui ne polluerait pas.
D'accord.
Mais, bon, voilà, après, ça demande à ce qu'il y ait une solidarité. Ça veut dire... Ça ne doit pas reposer sur les gens qui habitent à cet endroit-là. Il faut que ça soit. Il faut qu'en retour, ceux qui font attention à la nappe phréatique, ceux qui font attention à ne pas la polluer, reçoivent, comment dire ça, le fruit de leur de ce qu'ils ne font pas.
Oui, une forme de compensation pour les contraintes qu'ils subissent, quoi.
Voilà. Donc. Ça, c'est une chose qui me semble importante. C'est un choix politique qui est de reconnaître explicitement ce rôle, organiser une solidarité financière et institutionnelle entre territoires, donc pour protéger notre ressource. Quoi, hein. Et ça, c'est une ressource collective. Et on doit l'intégrer dans cette donnée-là, on doit l'intégrer dans la gouvernance de l'eau. Si je suis trop technique, il faut le dire. Hein.
Moi, je comprends. Donc, bon. Max aussi, apparemment.
Bon, autrement, il y a aussi autre chose, et tu l'as évoqué, hein, c'est-à-dire que la qualité de l'eau, elle doit être en lien avec la santé publique. C'est-à-dire que c'est une exigence, c'est ça, qui est non négociable. On ne doit pas simplement que garantir un volume d'eau à chaque personne, mais on doit donner une eau de qualité, digne de confiance. Donc, il y a des pollutions émergentes hein, actuellement. Il y a les perchlorates, les PFAS, les résidus de pesticides et d'intrants chimiques. Et donc, tout ça interroge notre modèle hein, économique. Et le fait que depuis 2019, la MEL recommande aux personnes enceintes et aux nourrissons de ne pas boire l'eau du robinet, doit nous interroger. Quoi. C'est quelque chose qui est incroyable. Il n'y a personne qui réagit, mais c'est une alerte démocratique majeure. Ça veut dire qu'on délivre une eau qui ne serait pas de qualité. Donc voilà. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui relève de la responsabilité commune. Et il faut que les citoyens... Tu as du point sur la table, quoi. Exige, quoi. Que c'est un principe non négociable. L'eau du robinet doit être de qualité pour toutes et tous, sans exception.
Parce que quand tu parles de responsabilité, j'entends plusieurs niveaux. Parce que il y a effectivement donc la MEL qui essaye de sanctuariser, de protéger, d'alerter un peu. Enfin voilà, donc c'est-à-dire nos citoyens, enfin les citoyens et leurs représentants. Et en même temps, la première responsabilité, je veux dire la culpabilité de cette pollution. Alors bon, il y a les pollutions passées. On ne va pas aller rechercher tous ceux qui ont pollué parce qu'ils sont sans doute morts. Mais aujourd'hui encore, il y a des entreprises, il y a des usines, etc. Et pour eux, c'est juste des externalités négatives dont ils n'ont pas apporté ni le coût, ni l'organisation, la logistique. Enfin, voilà, c'est pas seulement moral, quoi. Et c'est tout le collectif à travers les services publics qui devons... payer non seulement en coûts financiers, mais comme tu le disais, en coûts de santé, etc. Donc là, la notion de responsabilité, effectivement, nous, citoyens, on a la responsabilité, en le sachant, de bouger. Mais bon, la culpabilité, ce n'est pas nous qui la portons. Donc, il y a un système très, très injuste.
Alors, à ce propos, il y a peut-être quelque chose qu'il faut signaler. C'est que le collectif eau a obtenu une victoire assez importante. C'est-à-dire que... il fallait savoir que dans la tarification qui était mise en place sur la MEL, le tarif solidaire qui était réservé aux gens qui, à l'époque, bénéficiaient du CMUC, donc des gens avec peu de ressources, etc., était un tarif plus bas que les autres, hein, normal.
Tarif solidaire.
Mais c'était le tarif plus haut que payaient les entreprises qui avaient une tarification dégressive, qui était interdit par la loi. Et donc, en fait, à la limite, pour une entreprise, c'était plus intéressant de gaspiller l'eau que de la préserver. Et là, on a changé le fusil d'épaule. D'abord, ce n'était pas légal. On rentre dans une tarification progressive pour les entreprises. Mais en plus, il faut savoir en plus que les entreprises peuvent aussi défalquer de leur impôt une partie de
ses
charges. Donc, en fait, on se cotise tous pour que... Enfin bon, il y a
quelque chose. Économiser aux entreprises leur surconsommation.
Donc, en fait, au niveau de la culpabilisation, je pense qu'on ne doit pas être très coupable.
Oui, c'est ça. On n'a pas à rougir pour célébrer cette belle nouvelle.
Eh bien, j'ai justement la chanson qui va pile poil.
Non.
Mais si.
Super,
c'est
Max.
C'est Hélène Pyris avec... non, mais c'est pas moi.
C'est pas moi. Non, c'est pas moi.
Ouais, tu vois, c'était l'autre soir, là, c'était 22h, je crevais la dalle. Mais il pleuvait, il faisait froid, j'avais vraiment trop la flemme de sortir. Mais j'avais envie de bouffer un truc un peu classe quand même, tu vois. Alors bon, je commande un Uber Eats, et quand le gars arrive, je vérifie ma commande, et je me rends compte que c'était pas du tout ce que j'avais commandé. J'avais envie d'un canard laqué, et là, c'était juste des nouilles sautées aux légumes, tu vois. Alors, je refuse la commande, je lui demande des explications, et là, le gars, il me répond.
Non, c'est pas moi.
C'est le resto qui s'est planté.
Bon alors, ok, donc j'appelle le resto, je demande des explications, et là, le gars, il me dit...
Non, c'est pas moi.
C'est le livreur qui s'est planté.
C'est pas moi.
Ah ouais ?
Bah ouais.
Et du coup ?
Bah, j'ai mangé des nouilles.
Ah.
Ouais, tu vois, c'était l'autre matin, j'avais fait un concert la veille à Paris et je prends le train pour rentrer chez moi, je parie perto de Gare de Lyon, je suis hyper chargée. Donc je réserve un taxi et là il y a un gros bug et le taxi il n'arrive pas. Alors j'appelle le standard pour leur demander des explications et là, la nana, elle me dit
Non, c'est pas moi.
C'est le service commercial qui a merdé.
Ok, bon bah très bien, alors j'appelle le service commercial et là la dame, très gentille au demeurant, hein, elle me répond
Non, c'est pas moi.
C'est le standard téléphonique, t'as merdé.
C'est pas moi.
Ah ouais ? Et du coup ?
J'ai loupé mon train.
Ah, c'est un peu con, non ?
Mais tu voulais que je fasse comme ?
Ouais, j'en sais rien.
Ouais, tu vois, c'était l'autre jour, j'écoute les infos et je tombe sur l'ouverture de l'enquête du crash d'avion Paris-Tokyo. Tu te souviens pas ? C'était il y a quelques années, mais c'était une chute de 3000 mètres par minute, l'enfer, quoi. Bref, et donc tu vois, ils interrogent la compagnie aérienne, et puis là, il y a le représentant officiel qui prend la parole.
C'est l'entreprise de sous-traitance qui a délivré des pièces défaillantes.
Et là, donc forcément, ils interrogent la fameuse entreprise de sous-traitance, et tu t'en doutes, hein.
C'est la compagnie aérienne qui a négligé certains contrôles.
Rien, 240 morts.
Ah.
Ouais, tu vois, c'était l'autre soir, là j'étais en soirée avec des copains et j'ai un pote qui commence à s'énerver sur l'écologie individuelle et les petits gestes du quotidien, comme quoi ça sert à rien, qu'on se fout de notre gueule. Tu crois vraiment qu'on va sauver le monde avec des pois chiches en vrac et une brosse à dents compostable ? Alors on se demande justement qui doit faire les efforts et là mon pote, il pète un câble.
Non, c'est pas moi.
Gérard, les seuls qui peuvent changer ce système pourri, c'est les multinationales et les politiques. On le sait, elles feront jamais. Bon, du coup, ambiance de merde, je rentre chez moi, j'allume la téloche et là, je tombe sur une interview du PDG de Total Energy. Et quand le journaliste le titille sur l'étude du lien entre réchauffement climatique et hydrocarbures que Total connaît depuis les années 70, pépouse le mec, il répond. Consommateurs d'énergie, nos concitoyens ne sont pas d'accord. Ils veulent de l'énergie, mais ils ne sont pas prêts aujourd'hui à accepter un manque d'énergie. Et du coup, c'est de leur faute à eux, et pas à nous les gros riches.
C'est pas moi. Hélène, il y a la lumière du couloir, ça fait une semaine qu'il y a la lumière.
C'est pas moi.
Et non, c'est pas moi. C'est Hélène Pyris sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette émission, tous essentiels consacrés ce matin à l'eau et plus particulièrement à la gratuité des premiers mètres cubes.
Et d'ailleurs, Max, tu avais peur que l'intelligence artificielle décide pour nous de garder toute l'eau pour elle.
Oui, pourquoi pas. Tu vois, si on imagine que c'est elle qui gère les flux, que ce soit les flux électriques ou les flux... primordiaux.
Mais elle ne boit pas l'intelligence artificielle, elle ne se lave pas non plus.
Si, quand même, elle se refroidit un peu. Elle a besoin de se refroidir un peu.
Refroidir, oui, comme, voilà. comme les centrales nucléaires.
Quoi. C'est ça.
Où l'eau, elle ressort chaude. Voilà.
Alors, peut-être elle mettra avant tout de l'eau dans les centrales nucléaires avant de l'eau pour elle pour se refroidir.
Mais qu'est-ce que ça donne envie. Bon, à plus court terme, Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous dire, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, par exemple, avec les agriculteurs, puisque tu as parlé des champs captants
Oui, ben... En fait, les pratiques agricoles influencent directement la qualité de l'eau, hein, en particulier sur les zones de captage, mais ailleurs aussi, hein, autour de la Lys, là où on prend les eaux de surface, ben, il y a des pesticides qui sont utilisés, etc. Donc, en fait, on peut exiger des changements, mais on ne peut pas les exiger, à mon avis, sans perspective économique et sinon, ça serait voué à l'échec. Quoi, hein. C'est ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. Hein. Donc, protéger l'eau, ça suppose que, d'accompagner les transitions, de développer des pratiques agricoles qui seraient compatibles avec la ressource. Et puis, ça serait de garantir des débouchés économiques aux agriculteurs engagés dans cette filière. En fait, le choix politique central, c'est de faire de la protection de l'eau un pilier du modèle agricole et non une contrainte imposée.
Soit vécu plus positivement aussi.
Oui, tout à fait, oui. Donc, en fait, il y a aussi, on a peut-être oublié de parler d'un petit aspect, c'est sur la préservation de la ressource. Hein. Actuellement, on ouvre le robinet, ça coule, et on utilise de l'eau chèrement potabilisée pour tous les usages.
Y compris les toilettes.
Ben oui, et ça ne nécessite pas forcément une telle qualité. Et comme on sait que ça coûte très cher de potabiliser, il y a peut-être une vision alternative à avoir. Quoi, hein. Et il y aurait aussi un choix politique clair qui serait de réserver l'eau potable aux usages vitaux et développer les alternatives ben, pour les autres usages. Quoi, hein. Donc la récupération d'eau de pluie... c'est un levier simple et c'est efficace. Hein. C'est pas simplement que le flux qu'on a dans le jardin pour arroser. Hein, mais c'est déjà ça, c'est quelque chose d'important. Mais ça peut être aussi récupéré pour les eaux usées, hein, pour les eaux des toilettes. En fait, ça permettrait de ne pas faire baisser le niveau des nappes phréatiques. Ça baisserait les volumes à potabiliser. Puis... ça aiderait à maîtriser les coûts davantage. Quoi. La sobriété, ce n'est pas une privation, c'est une intelligence collective dans l'usage de la ressource. C'est autre chose. Quoi. L'eau potable doit être réservée aux besoins vitaux. Donc voilà, donc nous, y a aussi un problème au niveau de la mêle, c'est que l'organisation de l'eau sur la mêle, c'est une fragmentation. Hérité de notre histoire. Hein. On a Sourceau, qui est une régie publique de pompage et de potabilisation. Alors, avant, il y avait même un prestataire qui était celui qui pompait l'eau et qui le revendait à la mêle.
D'accord.
Bon, il s'appelait Suez. On a changé. La mêle a déboursé je ne sais plus combien de millions d'euros pour arracher les usines de pompage. Pour que ce soit elle qui maîtrise et qui reprenne la main dessus. Quoi. Mais voilà, enfin, c'est comme le marché de l'eau, c'est un marché de gré à gré. Celui qui fixe le prix, c'est, voilà, on ne sait pas comment il le fixe, quelle est la valeur. Pourtant, c'est un bien collectif. Hein, mais bon. Donc voilà, donc, on a aussi la distribution qui est fragmentée avec Ileo. Donc Ileo, c'est une maison commune entre Veolia et Mel. Hein, c'est une maison commune pour garder le savoir-faire, parce qu'à un moment donné, avant que Suez parte, on n'a pas choisi la régie publique à la place de Suez, parce qu'il aurait fallu racheter le savoir-faire de la distribution et que Suez le finançait très cher. Et donc, on a choisi Veolia. Bon, Veolia a peut-être acheté le savoir-faire au rabais, je ne sais pas. En tout cas, eux, ils ont pu être les nouveaux prestataires. Et puis, on a aussi un deuxième acteur qui est Noread. Donc, il faut savoir que sur la ville, sur la métropole, on a 66 communes qui sont desservies par Ileo. Et le reste, donc sur les 99, je crois, communes, par noyade. Hein, et ça, c'est des résultats. En général, c'est les communes qui sont les plus rurales. Quoi, hein. Donc, en fait, c'est des résultats d'histoire. Hein. Donc, en fait, on a ça. Et puis, dernière partie, c'est l'assainissement. L'assainissement de la Mel, qui est en régie publique, et donc qui vient s'ajouter à toute cette fragmentation. Quoi, hein. Et donc, ça serait quand même plus logique d'avoir une grosse entité, une régie publique globale qui gère cet ensemble-là. Donc voilà. Donc, moi, je pense que là, on a un constat à faire, c'est que toute l'organisation de l'eau de la Mel dépend de choix, de décisions politiques. Et ces décisions sont réversibles et on peut peut-être avancer vers autre chose. Et le choix structurant, c'est de créer un service public métropolitain, unifié, de l'eau, du captage jusqu'au rejet. Donc voilà, après, nous, notre collectif, on a défendu la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Hein, et on pense que c'est important pour rendre effectif le droit à l'eau vitale. C'est pas un cadeau, c'est pas de la démagogie. Ça constitue une reconnaissance concrète de l'eau comme droit vital. Boire, cuisiner, se laver, assurer l'hygiène de base relève de la dignité humaine. C'est pas du tout du marché. Ça ne fait pas partie du marché normalement. Hein. Contrairement aux idées reçues, la gratuité ciblée ne favorise pas le gaspillage lorsqu'elle est articulée avec une tarification progressive. Hein. Bon, bien sûr, si l'eau est gratuite, si on peut l'utiliser comme ça, on va gaspiller. Mais si, après la part vitale, on est dans une tarification progressive, plus on consomme de l'eau et plus on la paye cher. Et ça semble, et ça va aider à préserver
ça
la ressource.
Ça responsabilise, ça donne du sens.
L'eau de la piscine.
Hein, c'est ça. C'est qu'en fait, l'eau pour la baignoire, elle sera un petit peu payante et l'eau pour la piscine, nettement plus chère.
Voilà, c'est ça. Et celle pour boire, pour pouvoir survivre, pour vivre.
Et pour la douche.
Et voilà, et elle...
gratuite.
Oui, ça serait logique.
Oui, c'est logique, ça. C'est... voilà. En tout cas, c'est bien dans la logique globale du revenu de base en général, qui consiste à donner le minimum vital sans condition. Quoi, sans,
bien sûr. Et c'est bien ça. L'eau vitale n'est pas une eau de loisir. C'est pas la même chose. C'est deux produits différents. Donc, en fait, il y a aussi autre chose. Hein. C'est quand nous, on revendique les premiers mètres cubes gratuits. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que derrière le robinet, il y a des personnes. Et donc, en fait, on ne peut pas voir les choses qu'uniquement à travers le compteur. Parce que derrière les compteurs, des fois, il y a une personne et des fois, il y a toute une famille. Et donc, vu que c'est à chacun qu'on attribue ce droit vital, il faut qu'on tienne compte de la composition du foyer derrière le compteur. Et en plus de ça, il y a aussi l'habitat collectif. Là, ça marche dans notre histoire. Nous, on a donc Ileo. On est abonné à Ileo. Donc, si on habite dans une maison, des fois, quand on est dans un immeuble, on est abonné directement à Ileo. Et puis, on paye notre abonnement. Hein. Tiens, à propos d'abonnement, je tiens à signaler une victoire du collectif Eau pour une régie publique et les premiers mètres cubes gratuits. On a réussi à faire réduire au minimum. Nous, on demandait la suppression d'abonnement pour que on puisse voir tout de suite les efforts qu'on est en train de faire. Hein, ça a été réduit à 6 euros. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, on a aussi obtenu quelque chose qui est... Bon,
il ne faut pas demander la marge qui se faisait dessus avant s'ils ont été capables de réduire à ce point-là.
Voilà. Donc...
C'est pour beaucoup, protéger l'eau, ça consiste à mettre des gendarmes devant des méga bassines. Alors du coup,
c'est vrai. Ouais. Je ne sais pas si ces gendarmes ont été payés sur notre tarif, sur notre facture d'eau ou sur nos impôts sur le revenu.
Je ne sais pas. Mais ils doivent boire de l'eau aussi. Bon, alors donc, dans l'habitat collectif, j'y reviens, ce n'est pas la même chose puisqu'il y a un bailleur social ou un bailleur qui, lui, est l'abonné. Donc en fait, si on peut faire toutes les tarifications qu'on voudrait, à partir du moment où on livre le bailleur et puis que lui utilise un prestataire supplémentaire pour délivrer chaque foyer, l'endroit où il y a des logements sociaux, c'est justement l'endroit où on ne pourra pas appliquer le tarif le moins cher, parce qu'il est toujours en cher. Il y a un enrichissement.
Oui, voilà. Parce qu'il y a un intermédiaire en plus.
Donc voilà. Alors après, pour compenser ça, on propose des chèques. Mais alors des chèques hauts, voilà. Mais c'est pas logique, parce que des chèques hauts, qu'est-ce que c'est ? On va aller quémander de l'argent supplémentaire. On sort de la logique de dignité. On rentre dans une logique de stigmatisation. Donc là, moi, c'est des choses que je ne peux pas supporter. Il faut trouver une autre façon de faire, quoi. Hein.
Et puis on retrouve l'argent public qui vient suppléer des intérêts, des bénéfices privés.
Ben voilà, oui, tout à fait. donc voilà. Donc là, je répète que la part fixe d'abonnement brouille le signal prix, hein, et pénalise les petits consommateurs. Et... le supprimer rendrait plus visibles les efforts de sobriété aux yeux des citoyens. Hein, moi, je ne vais pas dire des consommateurs, c'est des citoyens, des usagers, mais ce n'est pas des consommateurs de l'eau. Hein. Donc voilà. Donc, et ça rendrait efficace une tarification progressive. Parce qu'on verrait tout de suite qu'il faut faire des efforts, qu'on a trop dépensé, etc.
Ce serait même cohérent avec les programmes scolaires, puisque maintenant, depuis la maternelle, on apprend le cycle de l'eau, il y a des semaines sur l'eau. Dans mon collège, on vient d'en avoir une, etc. Donc les jeunes, les enfants, même tout petits, apprennent que c'est une ressource, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut l'économiser parce qu'elle produit de la vie, etc. Donc on a déjà tout l'appareillage d'éducation, en fait, et d'éducation populaire.
Tout à fait. Voilà, et en fait, on est en train de faire rentrer, on changeait cette logique de consommation, de consommateur, etc. Et c'est un paradigme politique, c'est passer d'une logique de consommateur à une logique d'usager citoyen. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que l'usager citoyen, il a son mot à dire dans cette histoire-là. Hein.
Et un bien commun.
On va y revenir après, enfin, si on a le temps, bien entendu. Donc voilà, donc... il faut qu'on paye le prix l'eau à son juste prix. Ça c'est important. Hein. Mais pour qu'on puisse la payer à son juste prix, il faut qu'on soit conscient des enjeux. Il faut qu'on soit d'accord. Des enjeux de qualité. Il faut s'approprier les problématiques qui sont liées à la potabilisation de l'eau. Donc on doit participer au débat sur les choix collectifs. Faut-il aller chercher de l'eau plus loin ? Parce que si on est en stress hydrique, s'il n'y a plus suffisamment d'eau, etc., comment on fait ? On ferme le robinet, quand on l'ouvre, il n'y a plus rien. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'il faudrait chercher de l'eau plus loin ? C'est-à-dire payer des infrastructures supplémentaires.
Les transports.
Voilà. Faut-il prioriser l'économie de la ressource ? Donc là, on rentre dans une logique de conscientisation. Quels usages doivent relever de l'eau potable ? On en a discuté juste avant. Quel volume d'eau vitale doit être garanti gratuitement ? Là aussi, on a tous notre mot à dire. Bon, les Nations Unies proposent 25 litres par jour par habitant. Mais nous, on pourrait décider que ça soit plus ou moins en fonction de nos possibilités. Ça doit être un débat démocratique. Et ce débat démocratique, il doit éclairer. Il doit déboucher sur quelque chose. Hein. Donc voilà, ça doit intégrer l'état de la ressource, les inégalités territoriales, les impératifs de sobriété, enfin tous ces éléments-là. Mais on doit sortir de cette logique consumériste. Voilà. Et on doit créer les conditions de l'adhésion collective aux choix difficiles que la situation impose. Donc voilà. Sans appropriation, c'est un peu la logique politique, c'est sans appropriation citoyenne, il n'y a pas de sobriété durable. Et sans démocratie, il n'y a pas de légitimité des choix. Ils sont opaques, ils sont décidés par des techniciens, et ça ne nous va pas. Alors, nous, on pense que donc toute cette question sur l'eau vitale est liée, fortement liée, à la régie publique. J'en ai parlé tout à l'heure, la régie publique, c'est important. Ça constitue un outil essentiel de reprise de contrôle démocratique sur l'eau. Donc ça permet de sortir des logiques de profit, c'est plus une multinationale. Ça permet de limiter leur influence, hein, et ça permet de réinvestir chaque euro donné dans la gestion de l'eau. Il n'y a pas de fuite.
Sur la marge de bénéfice.
Voilà.
Joli jeu de mots, Pierre-Yves, il n'y a pas de fuite.
Oui, on disait à une époque qu'à chaque fois qu'on ouvrait le robinet, on remplissait la poche des actionnaires. Mais voilà.
C'est le ruissellement. Voilà. Non, pardon, non, je ne comprends plus rien. Ouais.
Donc en fait, les régies sont un rempart nécessaire contre la marchandisation de l'eau. Et ça, il faut se le redire. Quoi. C'est vraiment important. Hein. On, y a des gens qui sont en train de nous dire, ouais, mais il y a des régies qui gèrent mal l'eau. Il y a des prestataires qui gèrent, des multinationales qui gèrent mieux l'eau. Ben non, non, non. Une régie, elle doit être bien gérée. Et si elle est associée à une vision démocratique, s'il y a un regard, s'il y a un contrôle, et s'il y a tout ça. Donc voilà, mais après, il y a quand même un problème, c'est que la multiplication de régies publiques. Les régies publiques vont permettre de payer le juste prix. À chaque fois, on va payer la potabilisation, on va payer tout ce qu'il faut. Enfin, mais en fonction de l'endroit où on est, ben on va payer un prix différent.
Mais oui, comme tu disais, selon si c'est plus ou moins pollué, etc.
Ben oui, c'est les différentes de ressources, de contraintes naturelles et d'héritage du passé. Quoi. Enfin ça produit des écarts de tarifs, de qualité, de capacité d'investissement entre tous les territoires. Donc en fait, il y a une limite structurelle. Un droit fondamental ne peut pas dépendre du territoire où l'on habite seulement. Donc en fait, la solution, c'est le service public national de l'eau. Répondre aux inégalités territoriales et garantir l'égalité républicaine. En fait, l'accès à l'eau potable relève d'un droit fondamental. Or, un droit fondamental implique une égalité de traitement entre citoyens, indépendamment du lieu de résidence. Moi, ma fille, qui habite dans un village de 150 habitants, ils sont eau plus chers que moi à Lambersart.
Incroyable.
Mais oui, c'est... Bah oui, il y a moins de personnes pour payer tout ce qu'il faut.
Tous les frais.
Le tarif, il augmente. Hein. Donc voilà, donc, aujourd'hui, le service de l'eau, il est territorialisé, localisé, et ça repose pas du tout. C'est une fiction d'égalité entre territoires, et ça ne résiste pas à l'analyse. Les ressources en eau changent d'un endroit à un autre en fonction de leur nature et de l'histoire. Ça, j'ai l'impression de me répéter, mais je pense que c'est bien aussi de le marteler. Donc voilà, donc après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y en a qui payent leur eau plus cher pour une eau de moindre qualité. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Là, j'ai l'impression peut-être...
On peut peut-être faire une petite pause musicale.
Ouais, voilà,
ouais. Figure-toi que j'ai sous le coude une chanson de Renaud Bistan.
Non.
Mais si. Mais une qu'on n'a pas encore mise, mais qui est en hommage à un cher disparu de cette semaine. C'est parti.
Mon sweat à capuche, alors bien vissé sur la tête, qu'un jour je regretterai ces petites lunettes. Son visage austère, ses cheveux blancs et ses bouclettes. On gueulait alors contre la privatisation de France Télécom et puis aussi les expulsions de sans-papiers. Je ne renie pas ses objections. Alors pourquoi me vient cette chanson ? C'était bien sous Jospin. Mon Dieu que c'était bien sous Jospin. Bon d'accord, vous allez me dire, Jospin c'est pas très frais. Tu voudrais pas nous parler d'un truc un peu plus concret. Mais on ne choisit pas à quoi s'agrippe la nostalgie. Et moi c'est à ce type triste comme un bonnet de nuit. En ce temps-là, rappelez-vous, personne n'était de droite. On se disait gaulliste, sans étiquette ou démocrate. Bien sûr le vote Le Pen se défoulait dans l'isoloir. Mais ça restait honteux comme lâché dans l'urinoir. C'était bien sous Jospin. Mon Dieu que c'était bien sous Jospin. C'était bien. C'était bien sous Jospin. Sous Jospin. garde que j'ai des terreurs nocturnes. J'imagine Martine Aubry qui entre dans ma turne. Elle s'assoit sur mon lit, me console et me dit tout bas: rassure-toi, Emmanuel Macron n'existe pas. Parfois quand je cauchemarde que j'ai des peurs obsessionnelles, j'agrippe mon doudou qui a la forme de Lionel. Je le tiens contre moi encore tremblant, je lui confie que j'ai vu dans mon rêve Manuel Valls en burkini. Aujourd'hui j'en suis sûr, Lionel est dans la repentance de ne pas s'être attaqué au pouvoir de la finance, d'avoir préparé le terrain à ce qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas voté pour lui. Mais je suis sûr que si Lionel, ben, il revenait travailler, il se mettrait du côté du faible et de l'indigné. Il saurait convaincre la Russie et l'Amérique d'entamer sans tarder la transition écologique. Je suis sûr que si on se faisait tous une permanente, eh ben on aurait d'un seul coup les idées clairvoyantes. Une grâce divine sur nous descendrait du ciel, la grâce olympienne de l'Olympique Lionel. C'était bien sous Jospin. Mon Dieu que c'était bien.
Et j'en tire les conclusions
de distance sur les en me retirant de campus.
Si on vire les multinationales pour, si j'ai bien compris, avoir en même temps des régies locales pour connaître le terrain et adapter au mieux la prise en compte de l'eau, la protéger, le transport, etc., tout en ayant une structure plus globale nationale pour assurer une égalité en fait entre les territoires. Ben, moi, je pense à ces pauvres travailleurs de l'eau quand même, des multinationales qui vont se retrouver à la rue. Oh, qu'est-ce que tu vas en faire, Pierre-Yves?
Alors déjà, les travailleurs de l'eau des multinationales vont être protégés. Hein. Pendant 18 mois, ils continuent à être payés de la même façon, et après, il y a une négociation sur le contrat, etc. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tous ces travailleurs ont un savoir-faire, et ce savoir-faire, ben, il peut être profitable à la collectivité. Quoi. Et donc, en fait... la question, c'est de susciter l'adhésion des travailleurs de l'eau. Et donc, faire en sorte qu'eux, ils arrivent dans le giron public, soit en régie, soit dans un service public, ben, ils soient aussi des acteurs enthousiastes de ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut enlever les résistances, enlever les inquiétudes, dire qu'il n'y aura pas de dégradation des conditions de travail, c'est parce qu'on connaît, hein, il y a des régies publiques qui existent et on voit comment sont traités les travailleurs, tout à fait normalement, quoi, hein. Et il n'y aura pas d'incertitude sur les carrières, il n'y aura pas de... Enfin bon voilà, il y a tout ça, mais il y a surtout un projet collectif au service de notre société, au service de tous les habitants et de tous les habitantes. Donc, en fait, là, il y a un choix à faire. Garantir la continuité des droits sociaux et des statuts, reconnaître et valoriser les savoir-faire professionnels, associer les agents au choix d'organisation et d'amélioration du service et donner du sens au travail en réaffirmant sa finalité d'intérêt général et non de rentabilité, quoi. Donc, en fait, on passerait d'une logique marchande à une logique publique, et c'est aussi passer d'une culture de performance financière à une culture de qualité de service, de protection des ressources, de santé publique. Donc en fait, pour les agents, ben, cette évolution, elle peut constituer une sorte de fierté professionnelle, hein, donc un facteur très important. Mais il faudra les accompagner dans une logique de respect dans ce cadre-là, quoi. Hein. Donc, la reprise en régie ou aller vers un service public, eh ben, ça ne doit pas être vécu comme une moins-value. C'est au contraire une plus-value pour tous les travailleurs de l'eau. Après, il faut les associer dans, par exemple, dans le conseil de l'eau.
Oui, puisqu'ils ont leur expertise de terrain. Ben,
bien sûr, et bien entendu. Et on a besoin d'une sorte de parlement de l'eau qui viendrait accompagner donc, les régies municipales, les services publics. Et donc, en fait, une sorte d'observatoire, quoi, un conseil de l'eau qui mêlerait citoyens, associations, élus, experts et acteurs du territoire et qui permettrait donc de rendre accessibles des données souvent techniques ou dispersées. Il y a des choix opaques qui existent. Il faudra qu'ils y soient discutés. D'éclairer les choix publics par une expertise pluraliste, c'est-à-dire vraiment envisager tous les cas de figure. Renforcer le contrôle citoyen sur la qualité de l'eau, les tarifs et les orientations du service, et de faire de l'eau un sujet de débat démocratique permanent et non donc. L'objet de décisions de politique qu'on subit comme si on était des consommateurs, quoi. Donc, en fait, c'est politique, quoi. Ça permet d'informer les citoyens, de leur permettre de s'approprier la question, et on sort de cette asymétrie d'information qui existe entre les opérateurs, les élus et les citoyens. Donc voilà, les travailleurs auront aussi leur mot à dire sur la façon de fonctionner, au même titre que les citoyens, il devrait y avoir des discussions, etc. Donc voilà, donc, moi je pense qu'il faut avancer par là. Puis, bon, petit mot aussi sur les multinationales. Hein, il faut savoir que partout, l'eau est gérée en régie publique, enfin quasiment, quoi, dans le monde, hein. Que les grandes multinationales de l'eau sont françaises.
Ah bon ?
Oui, c'est Veolia, c'est Suez, il y a la SOR aussi. Donc en fait, on peut se poser la question, pourquoi il n'y aurait pas de concurrence ailleurs ? Enfin, comment ça se fait ? Et il faut savoir aussi que, par exemple, quand il y a eu une crise en Grèce, on a sommé les Grecs de revendre leur régie publique à ces multinationales. Donc c'est le FMI, la Banque mondiale, qui leur demandait de le faire. Enfin bon, on est dans une logique, on voit que c'est une logique de financière qui est derrière
tout ça. De prédation.
De prédation, de profit, quoi. Donc moi je redis que les régies publiques constituent un rempart indispensable face à cette marchandisation de l'eau et cette logique de profit. Donc voilà, donc ça permet de replacer un bien vital sous contrôle public et démocratique. Donc voilà, après, je ne sais pas si tu as encore des questions, mais moi, je peux revenir sur la gratuité.
Mais oui,
en disant simplement que ça existe à Lyon.
D'accord.
Donc à Lyon, depuis janvier, les Lyonnais ont 12 mètres cubes
par an. Par jour.
Par an.
Mais pardon.
Tu par jour.
Ça fait un c'est pour un piscine, qu'est-ce que tu veux.
Voilà. Donc gratuit. Donc quand on parle de gratuité, ce n'est pas de l'utopie, d'inaccessible, c'est quelque chose de possible.
Financièrement et citoyennement. Citoyennement.
Bon, tout à fait. Donc moi, ce que je pense, là, c'est que ce qu'on peut dire, enfin, c'est au-delà de ce que je pense, c'est que la question de l'eau, c'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Et donc, en fait, ça oblige à choisir entre marché et bien commun, entre réparation et prévention, entre opacité et démocratie, entre inégalité territoriale et égalité républicaine. Bon, concrètement, garantir l'eau vitale, c'est de permettre à chaque habitant de la mer, mais au-delà de chaque citoyen, citoyenne, ou quel que soit l'endroit où ils habitent, où elles habitent, de boire l'eau du robinet sans crainte, de se laver sans compter chaque litre, et de savoir que la ressource est protégée pour ses enfants. Donc garantir l'eau vitale, c'est protéger la ressource et décider ensemble, ça implique des régies publiques fortes, pour sortir de la logique marchande, mais je me répète encore une fois, un service public national pour garantir l'égalité de traitement entre citoyens, et des outils démocratiques comme l'Observatoire de l'eau, un conseil de l'eau, pour assurer transparence, contrôle citoyen et débat éclairé. Donc il s'agit vraiment de dépasser les logiques locales isolées, d'affirmer l'eau comme un droit national, on peut même aller au-delà, on peut parler au niveau de l'Europe, assuré par un service public démocratique, solidaire et égalitaire. Donc garantir l'eau comme droit fondamental, ça implique de reconnaître les citoyens non comme de simples consommateurs, mais comme des usagers capables de comprendre, de choisir et de décider collectivement de l'avenir de la ressource.
Et ce sera sans doute plus efficace qu'un petit sablier à mettre dans la douche.
Bien sûr, bien entendu. Bon, ça peut aider, mais bon, ça peut aider à prendre conscience, mais la problématique est plus vaste, quoi. Hein.
Et puis on a abordé plein de sujets autour de la question de l'eau. C'est difficile d'évaluer exactement combien on économiserait vraiment à travers ce système. Déjà, on économise tous les bénéfices qui ne seraient pas donnés à des actionnaires.
Oui.
Mais on l'a évoqué rapidement. Mais toutes les externalités négatives, ce mot n'est pas très joli, mais voilà, tout ce qui est santé, on parle de plus en plus de l'impact des PFAS, par exemple, dans le cerveau et son implication dans certaines maladies dégénératives, etc., etc., etc. Et on voit que sur le plan biologique comme écologique, il y a de vraies conséquences aux choix qui sont faits pour les poches de quelques-uns et pour on ne sait même pas trop quoi d'ailleurs de ce qu'ils peuvent en faire. Donc c'est pas seulement l'économie individuelle qu'on pourrait en faire, c'est une économie sociétale pour nos services publics pour notre planète, quoi. Le côté viable pour nous en termes d'humains de notre environnement. Donc un grand merci pour cet éclairage, en même temps très très englobant, très global et en même temps très très précis. Tu nous as donné plein d'idées et on insiste sur le fait que ce n'est pas une utopie, c'est bien du concret, du réel. Et alors c'est pas une des entrées qui a été choisie par le mouvement français pour le revenu de base dans son calcul pour le projet quinquin, donc le projet de revenu de base en un quinquennat, parce que justement, comme on vient de le dire, c'est difficile à chiffrer, et puis l'objectif de ce rapport, c'est de prouver qu'un revenu de base est complètement réaliste à court terme, donc en un quinquennat, à partir de 2027, mais ça fera partie des sujets évoqués dans la première approche, donc la première partie du rapport, parce qu'elle ouvre des perspectives sans pouvoir les chiffrer concrètement, mais en termes de démocratie, en termes de finances, de protection de notre santé et de l'environnement. Donc merci beaucoup pour ce témoignage et cet apport très très intéressant. J'ai tout compris.
Ah ben écoute, moi aussi, ça tombe bien.
C'est moi qui vous remercie.
Bon, on se laisse avec une toute dernière chanson. Bon, c'est un tout petit extrait de Jeanne Chéral pour qui on a oublié de passer la station d'épuration. Mais il y a
juste avant, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient en savoir plus, donc je répète que pour ceux qui nous rejoignent à la toute dernière seconde, que la MEL, c'est la métropole européenne lilloise. Donc voilà, le plus gros de ton discours, Pierre-Yves, était contextualisé sur Lille, mais il est complètement transférable. Est-ce que tu peux nous rappeler ton mail, comme ça, si quelqu'un veut avoir plus d'informations?
C'est mon nom, donc Pierre-Yves, avec un trait d'union du 6, .pira. Alors Pierre, il faudra mettre deux œufs à la fin de Pierre, parce que je me suis trompé quand je me suis inscrit.
C'est comme où, Pierre, oui, Pierre, voilà.
@wanadou.fr.
Merci beaucoup. Et donc, la station d'épuration.
La station d'épuration, on la passe pas, mais là, on passe l'eau. Carrément.
Oh, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. l'eau qui rend con. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau.